propre journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche, assisté de Victoria, diffusé en direct mercredi 1er août de 18 à 21h, en différé jeudi 2 août, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Eh bien, bonsoir, chers amis auditeurs, heureux de vous retrouver en direct en ce premier jour du mois d'août.
Et de premier jour de chaleur.
Premier jour de chaleur, mais il paraît que ça va pas durer, ça va se dégrader. Alors bonsoir Victoria.
Bonsoir.
Et je précise que c'est aujourd'hui la fête nationale suisse.
C'est la fête nationale suisse. Merci Monsieur l'abbé Cellier de nous le préciser.
Parce que je suis revenu hier de la Suisse, c'est pour ça que je le sais.
Voilà, mais c'est très bien. Alors nous saluons par avance tous nos amis auditeurs suisses qui doivent nous écouter canton après canton par l'internet ou par TPS. Je suis content de vous voir Victoria parce que vous avez eu beaucoup de problèmes pour venir ici.
Chauffeur habituel est parti en vacances. Voilà.
Et bah écoutez, c'est très bien. Alors tiens, j'entends taper à la porte. Ah ben c'est peut-être le facteur. C'est le facteur qui doit apporter peut-être une carte postale. Allô, monsieur le facteur ?
Oui, c'est moi-même.
Bonjour monsieur de Beketch, comment allez-vous ?
Bon, ça pourrait être pire.
Bon, on vous entend à peu près, vous êtes sur une ligne fixe ou sur votre téléphone portable préféré ? Pardon ?
Je suis sur une ligne fixe.
Eh ben écoutez, c'est mieux avec le portable. Hein,
bon. Ah bon ? Alors,
non. On est content de vous voir. Serge, je félicite en même temps Victoria qui est toute heureuse de vous entendre.
Bonjour Serge.
Je lui fais une grosse bise et je salue tous vos invités.
Eh bien pour l'instant, nous en avons un qui est l'abbé Grégoire Cellier, mais à lui seul, il en vaut 10.
Et qui salue monsieur de Beketch qui est près de Banyuls, me dit-on ? C'est effrayant.
Oui.
Ne donnons pas trop de précisions géographiques, il y a tellement de malfaisants, c'est pas la peine.
Alors, non, voilà. Vraiment, il n'y a pas grand risque.
Alors je disais à Victoria, la pauvre, évidemment, son chauffeur préféré est en vacances, alors elle est venue par les transports en commun. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas pris les vélos mis à disposition par la ville de Paris. Eh ben, dites-donc, elle m'a fait une tête, alors.
Mais il en reste des vélos, parce que j'ai appris que dans le 18e, les stations de vélos libres, de pédalites, comment ça s'appelle
C'est Vélib. Avec deux pédales.
Ah bon, donc c'est des tandems.
Voilà. Donc, alors, allez-y, continuez, Serge. Oui.
Donc, on m'a dit que les stations avaient été saccagées.
Il y en a eu nombreuses.
Les gens du coin qui disent qu'ils sont chez eux et qu'ils ne... Ils veulent pas de vélo, ils veulent pas de pédale.
Voilà, tout à fait, on peut les comprendre, d'autant plus qu'avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui s'est passé sur le Tour de France, évidemment, ça ne fait pas beaucoup de publicité pour le vélo, quoi.
Mais ça, j'étais sûr que ça finirait comme ça. De toute façon, enfin bon, quand on est dans un pays occupé par les vandales, il était probable que ça allait donner lieu à des actes de vandalisme pur. J'ai même été étonné que ça ne se fasse pas plus vite que ça.
Il n'y en a pas trop qu'on a eu.
Il y en a un petit peu. Nous verrons. Ça vient de commencer.
Alors, comme je n'ai pas l'intention de me mettre à la pédale, ça ne me gêne que moyennement. Mais bien sûr, il faudra payer tout ça.
Alors glissons sur un autre sujet, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous avez retenu d'intéressant dans l'actualité de cette semaine ?
Naturellement, je voudrais revenir sur les suites de l'héroïque libération des infirmières bulgares Super Sarko, qui encore aujourd'hui nous a assuré qu'il n'y avait aucune contrepartie, ce qui prouve que vraiment il nous prend pour des cons, et il a bien raison, puisque les Français ont voté en majorité pour lui. C'est vraiment le signe que ça ne s'arrange pas.
Ouais.
Alors, j'en profiterai. Si j'osais, je donnerais un conseil au président Ahmadinejad d'Iran.
Oui.
Parce que s'il veut redevenir fréquentable, Ahmadinejad, c'est très très simple. Il faut qu'il prenne exemple sur son co-religionnaire Hadafi. Alors, donc, ça consiste à quoi? Aménageab, il construit une centrale nucléaire, on lui cherche des poux dans la tête. il a qu'à enlever les infirmières, alors Bulgare s'il veut, ou Moldova. Il faut qu'elle soit européenne, autrement Sarko s'en occupe pas, ça n'intéresse pas pour l'avenir de sa carrière. Et donc, il fait ça, on lui paye la libération ensuite, en lui offrant une centrale nucléaire, comme on a fait avec Kadhafi. Ouais. Moi, je voudrais quand même que quelqu'un m'explique, un des grands cerveaux de la diplomatie française.
Alors, ce soir avec moi, vous êtes mal tombé, hein, donc ouais. Je ne donnerai aucune explication.
Je voudrais bien qu'on m'explique quand même pourquoi Kadhafi, qui est un fou furieux, un dictateur totalement givré, une famille de dingos en plus, on le sait, a le droit d'avoir une centrale nucléaire, alors que Ahmadinejad, qui est, bon, évidemment, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais enfin, il est certainement moins fou que Kadhafi, lui, il n'a pas droit à ça. Ouais. Alors, j'ai bien mon idée, mais je ne la dirai pas au micro, parce que c'est pas la peine de rajouter.
Très bien, très bien.
Voilà.
Alors,
il reste à Ahmadinejad à s'arranger pour trouver une infirmière ou un médecin moldovalak qui a injecté volontairement le chikungunya à 3500 petits Iraniens, et puis ça ira comme ça.
C'est une très bonne idée.
Bon, ça, c'était pas une carte postale, c'était la lettre d'accompagnement.
On en est déjà en post-scriptum.
Non, j'en ai pas pour très longtemps, mais je voudrais d'abord vous raconter une histoire. Je suis dans le territoire qui est contrôlé par Fresh, qui est pas mal aussi, lui, dans la
ville
de Toké. C'est-à-dire qu'il se pose un peu là. Alors la dernière qu'on raconte à son propos, c'est qu'il a été invité à un grand raout qui était organisé par un de ses ennemis politiques, encore qu'il soit du même parti que lui, qui est quelque chose au conseil régional, au conseil général, je ne sais pas exactement. Et alors il y avait donc beaucoup de tentes, non, ça n'a rien à voir avec le début de notre conversation.
Hein. Absolument, nous avions rectifié de nous-mêmes.
Voilà, alors, des tentes sous lesquelles on servait des boissons diverses et rafraîchissantes. Tout ça, c'est uniquement des élus, hein. Comme dirait Michel de Poncin, c'est vraiment la République des gavés. C'est-à-dire que il s'agit de se distribuer du champagne entre soi, qui est payé par les contribuables, c'est pas autre chose. Et tout d'un coup, on a eu la stupeur. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais j'y crois pas d'ailleurs, mais c'est ce que racontent les habitants du cru, les élus du coin. On a eu la stupeur de voir Fresh se débraguetter et pisser en tournant sur lui-même, au milieu de toute la foule. Alors on s'est empressé, enfin ses accompagnateurs, son garde du corps ou je ne sais quoi, son secrétaire, s'est précipité et Fresh a dit d'une voix de stentor, quand on est en territoire ennemi, on pisse autour de soi pour marquer son terrain. Voilà le genre de personnage qui dirige le pays. Oui. Heureusement que c'est pas vrai.
Non,
parce que si cette histoire était vraie, ce serait extrêmement grave. Et alors je passé une soirée absolument délicieuse à Carcassonne chez l'éditeur du Liber Mirabilis, au pied de la cité de Carcassonne, qui est une véritable splendeur. Et du coup, je me suis intéressé à cette cité. J'ai parcouru son histoire. Et je suis tombé sur un texte qui est très amusant parce que ça raconte l'exécution de Jeanne Lanoir, Jeanne Establé, dite Jeanne Lanoir. Et alors, ce texte qui est publié par l'internet de la mairie montre exactement comment on trafique l'histoire.
Oui.
Et donc, moi, le révisionniste que je suis, se sent obligé de corriger. Alors, on apprend que le 17 août 92, une émeute a éclaté à Carcassonne. L'événement, nous dit-on, trouve sa place dans le grand conflit de l'époque entre une bourgeoisie commerçante enrichie par l'exportation des blés et le peuple attaché à une simple survie qui passe par le bas prix des grains. Alors, c'est une façon élégante de dire que c'était la guerre aux accapareurs. C'est ça qui avait déclenché la révolution. Alors, on apprend à la faveur de ça que les accapareurs n'ont pas disparu à cause de la révolution. Et pour cause, c'est eux qui l'avaient provoqué. Ils n'avaient aucun intérêt à disparaître. Et donc, à la suite de ça, le Parlement de Toulouse, soutenant les intérêts des négociants, on voit que et des grands propriétaires, ça n'a pas changé, avait arraché au ministre Terray la réflexion suivante. On croirait qu'il préfère, le Parlement, l'augmentation du revenu des riches à la faculté de subsister des pauvres. Alors, il y a eu plusieurs émeutes de la faim. Et la population de la cité de Carcassonne, qui était jetée dans la misère, s'est révolté. Alors, ils se sont enfermés dans la cité, les pauvres se sont enfermés dans la cité, dont ils ont fermé les portes, ce qui a empêché qu'on se saisisse d'eux. Et puis, le prix du pain continuera à monter, ils ont fini par faire une véritable révolte. Les populations des villages de la Montagne Noire sont descendues, officiers municipaux en tête, etc. Et ils ont bloqué le port du Fekel, dans lequel se trouvait un grand convoi de barques qui transportait du blé. Mmh. Bien. Sous le contrôle de l'administration départementale, dirigée par le procureur général Verdier, qui était un partisan du libéralisme. Je salue ici mes amis libéraux et économiques, qui sont des affameurs ou des idiots, c'est selon, on dit comme on veut. Hein. Et là, on apprend que des meneurs, alors écoutez bien ça, des meneurs hostiles à la révolution et à sa politique religieuse excitent les esprits. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement à Carcassonne, en 1792, il y a eu une chouannerie.
Bah, il y a eu une chouannerie, une contre-révolution, bien sûr.
Voilà. Et pour la mairie d'aujourd'hui, de Carcassonne, qui est une mairie, je crois, UMP, tout ça, c'est un travail de meneur à la révolution et à sa politique religieuse. Alors, d'une certaine manière, quand on sait ce qu'était la politique religieuse à l'époque, on pourrait expliquer, vous savez, ce qui s'est passé en Allemagne entre 40 et 44, ou entre 33 et 45, de la façon suivante, des meneurs hostiles à la révolution nationale socialiste et à sa politique religieuse, parce qu'au fond c'est ça, hein, c'est une forme de politique religieuse, le génocide, excite les esprits, nous dit l'auteur de cet article. Tout cela met le feu aux poudres, et au cours de l'émeute, le procureur Verdier est tué. Alors, lors du procès des émeutiers, à la suite de cette émeute, on a arrêté donc quelqu'un qui va comparaître au procès des émeutiers, qui s'appelle Jean Establet, dit Jean Negro, et qui est accusé, Negro, c'est en patois local, enfin en langue locale, ça veut dire la noire, tout simplement. Qui est accusé de provocation à l'attroupement et de complicité dans le meurtre de Verdier. Elle se défend en disant qu'elle était en train de faire un fagot devant la porte des Carmes et qu'elle a rencontré un attroupement qui l'a obligée à marcher avec lui afin de lui indiquer le lieu de séance du département, mais qu'elle n'a contribué ni à l'assassinat de Verdier, ni aux violences qui furent commises. Le jury la reconnaît quand même coupable, alors vous imaginez une vieille fagotière qui est coupable d'avoir conduit une émeute, et tout ça, ces gens-là sont guillotinés le 27 décembre 1792 sur la place du Halles. Voilà, et c'est cette histoire est un peu connue grâce à un roman d'Edmond Ourliac qui a fait de Jeanne Establet une femme, ce qu'on appelait une étrangère basanée, vous voyez déjà, oui, hein, oui. Une femme sauvage, le général en chef de l'émeute responsable du sang versé. Donc c'est une histoire qui est tout à fait intéressante.
Très intéressant.
Parce que on voit bien comment à partir d'une Melchouane, tout simplement, pour cacher la réalité de cette Melchouane et de la répression dont elle a fait l'objet de la part de la République universelle.
Et obligatoire.
Obligatoire et pacifique. Et juste, et enfin tout ce qu'on sait, eh bien comment on traficote l'histoire. Ce petit traficotage ayant été fait par un prof d'histoire du lycée de Carcassonne, ce qui montre que nos enfants sont en bonnes mains.
Ouais, absolument, mais ça on n'en doutait pas, vous en doutiez vous-même que depuis 250 ans les enfants sont en très bonnes mains.
Mais moi je ne sais rien maintenant,
très bonnes mains.
Est au pouvoir et qu'il nous a expliqué que Kadhafi était un type formidable, il n'y a plus raison de douter de quoi que ce soit.
On peut dormir sur ses deux oreilles, on est gouverné. Il faut bien se mettre ça dans la tête.
Leurs deux oreilles peuvent dormir.
Voilà, exactement.
Les martiens peuvent dormir.
Voilà, dormez sur vos deux oreilles, mais aussi les deux mains dans les poches, parce qu'on ne sait jamais, généralement, ils aiment bien y fouiller. Donc, faites attention, parce que...
Attends, mais à propos, un dernier mot.
À propos de poche.
Je suis tombé sur un texte du Fonds de solidarité pour le logement, vous savez, et de la couverture maladie universelle. Et alors, c'est un texte tout ce qu'il y a de plus officiel, hein, qui explique comment on a accès au Fonds de solidarité pour le logement et à la couverture maladie universelle. Le Fonds de solidarité pour le logement, ça consiste en gros à payer le loyer, le gaz, l'électricité, le téléphone, des gens qui payent pas, parce qu'ils sont supposés pas avoir les moyens, qu'ils soient locataires, sous-locataires ou résidents, enfin n'importe quoi. Et alors, il y a cette phrase admirable Le Conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de toute ou partie des aides. Point. Alors, moi, je voudrais savoir comment le Conseil général peut créer des fonds locaux. À mon avis, il doit les pitcher dans les poches des
Voilà, exactement. En tournant sur lui-même.
Ah, voilà. Et pour la maladie universelle, alors, vous savez, pour la couverture maladie universelle, qui peut en bénéficier? Alors, en gros, pour simplifier, disons, tout le monde, sauf vous et moi.
Voilà, exactement. Ah. Ça, je savais ça.
Voilà. Le conjoint. Alors, la personne qui la demande, mais le conjoint. La personne vivant maritalement avec le demandeur.
Tout à fait, les enfants.
La personne cohabitant sous le toit du demandeur depuis au moins un an. Oui. Je peux toujours essayer de vérifier. La personne qui est liée au demandeur par un acte civil de solidarité.
Tout à fait.
Les enfants à charge de moins de 16 ans.
Absolument.
18 ans pour les apprentis. 20 ans s'ils poursuivent les études. Et 70 ans ou 99 ans s'ils sont malades après.
Voilà.
Les ascendants, descendants collatéraux. Se consacrant aux travaux du ménage et à l'éducation des enfants de moins de 14 ans.
Et même, paraît-il, les parents morts depuis moins de 5 ans.
Ouais,
c'est ce qu'on dit, hein, je sais pas, mais je l'ai vu.
Ouais.
C'est magnifique, c'est absolument magnifique.
Je vous embrasse à tous.
Eh bien, écoutez, Serge, merci de cette petite carte postale assez savoureuse. Nous vous remercions de ces petits mots pleins d'humour et de votre vigilance qui n'est pas en vacances, elle. Et puis, nous nous retrouvons, si vous voulez bien, mercredi en huître. Pour une nouvelle carte postale de vacances, parce que maintenant vous avez l'habitude, j'ai acheté un carnet de timbres, donc vous allez pouvoir nous faire une carte postale toutes les semaines.
Mercredi en 8, quand si vous voulez, je vous parlerai des moules.
Par exemple, voilà une idée qu'elle est bonne.
C'est pas mercredi en 8, c'est mercredi prochain, non?
Eh ben oui, c'est mercredi en 8.
Ah.
Oui, enfin voilà, mais c'est parce que, il fait chaud, hein. Merci Serge. Que Dieu vous garde et à la semaine prochaine.
Enfin.
Voilà, donc c'était Serge Beketch, le directeur du Libre Journal de Serge Beketch, ici même, que je ne fais. On ne remplace pas, Serge est anti-remplaçable.
Vous êtes tout au plus le co-sous-directeur adjoint.
Voilà, que je supplée, que je protéise, et que nous retrouverons donc mercredi prochain. Et aussi d'ailleurs le directeur du Libre Journal de la France Courtoise, papier. Ça décadère, vous voyez. Il n'a pas beaucoup d'idées révolutionnaires, mais il est quand même très décadère, question presse. Monsieur Labbé-Sélier, on vous a déjà entendu, on va vous entendre davantage. Et il y a d'ailleurs un petit sujet que Serge a abordé, qui va peut-être nous permettre une petite transition avec... Une des raisons pour laquelle je vous ai pris...